Le message d'aujourd'hui s'intitule Dieu réveille mon cœur. Dieu réveille mon cœur, c'est un message auquel je réfléchis depuis un bout de temps. Et Dieu réveille mon cœur. Et en fait, en guise de prière d'introduction, j'ai ici un chant, je ne sais pas si on va être capable de le jouer, un chant un peu nouveau, bien préparé par, je ne vous l'ai pas dit, hein, Bill, Marie-André et moi. Je vous invite à suivre ce chant comme une prière. Vous pouvez suivre silencieusement, mais les paroles vont être projetées. Vous pouvez chanter aussi. C'est un bon chant pour avant d'écouter un message. On va parler ce matin de ce qui se passe lorsque Dieu réveille le cœur d'une personne ou d'une église. On va commencer par lire trois textes bibliques qui sont courts. Et on va commencer avec Jésus en action dans le temple. Dans l'évangile de Jean au chapitre 2. Jésus monta à Jérusalem. Il trouva les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, ainsi que les changeurs de monnaie installés dans le temple. Et il dit, « Enlevez ça d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de voleurs, de commerce. » pardon. Et ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Le deuxième texte, c'est Paul dans Philippiens qui enseigne à une jeune église et qui dit ceci, « Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Que chacun de vous, au lieu de regarder ses propres intérêts, regarde aussi ceux des autres. » Et finalement, quelque chose qui va nous intéresser d'une manière toute particulière ce matin, David, dans sa situation où il a dû faire face à Goliath, David demanda, « Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? » David dit à Saül, qui était le roi de l'époque, David lui dit, « Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai me battre contre lui. » Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Donc, la dernière lecture vient de David et Goliath, une histoire bien connue. Et en tant que chrétien, nous faisons face à des Goliaths, nous aussi. Et justement, Salah et Jean-Paul nous l'ont rappelé, alors que nous approchons de la fin des temps, il y a des ennemis de la foi qui vont se lever. Des ennemis comme vraiment évidents et d'autres moins évidents. Ils vont surgir parfois de l'extérieur de la communauté et mettent au défi la parole de Dieu. Mais aussi, parfois, leur façon de penser, leurs arguments contre la vie chrétienne, contre la foi, peuvent rentrer, sans qu'on s'en rende compte des fois, dans nos cœurs et nous affecter en tant que chrétiens. La parole de Dieu nous enseigne qu'il y aura toujours des Goliaths de toutes sortes qui vont se dresser devant nous. Et en fait, ils sont moins puissants qu'ils ont l'air. Les Goliaths, ils ne sont jamais invincibles. C'est la parole de Dieu qui est la vérité et qui dure éternellement et qui va faire ses preuves, même s'il y a des périodes où c'est difficile de le voir. Et comme on a déjà dit, même dans la réunion de prière de tantôt, mais aussi durant la célébration, Dieu a déjà gagné le combat. Le combat de la vérité et le combat de l'amour. Il a déjà établit son règne. Amen. Et l'important pour nous, c'est de ne pas perdre de vue qui Dieu est vraiment. Puis sa fidélité, elle ne change jamais. Sa fidélité, notamment envers toi, lorsque tu es en train de le servir et qu'il y a des moments difficiles. Dieu est grandement fidèle envers toi et tu vas en profiter. Comme Jean-Paul a dit, ça n'empêche pas qu'il va y avoir de la souffrance. Les missionnaires pionniers, je pense à ceux qui ont été en Chine. Il y en a un très célèbre qui s'appelle Hudson Taylor, qui a été vraiment l'initiateur du mouvement chrétien en Chine. Et il y a eu aussi, parmi l'Alliance chrétienne et missionnaire, Robert Jaffré, dont on va parler plus tard cet automne, parce qu'on va faire l'offrande Jaffré à un moment donné. C'était des gens qui ont fait de grandes choses pour Dieu et pour l'Évangile. Mais c'était tous des personnes faibles comme nous. Ils ont fait des grandes choses parce qu'ils ont gardé une vision juste de qui est Dieu. Ils ont gardé le cap sur la grandeur réelle de Dieu, au-dessus de tous les problèmes. Et ils croyaient vraiment que Dieu était avec eux. Wow, oui. Alors, ils nous inspirent, ces missionnaires. C'est pour ça qu'on aime en parler. Mais nous aussi, on est des missionnaires. Nous aussi, on a une mission. Et une partie importante de notre mission, c'est comment Dieu est en train de construire l'oasis avec les pierres vivantes que nous sommes. L'oasis fait partie de notre mission. L'Église locale fait partie des plans merveilleux de Dieu. Il faut savoir que les églises locales sont des œuvres importantes de Dieu dans le monde. Et donc, l'oasis est importante. Notre vie ensemble, ici, proclame la victoire de Dieu en Jésus. Parce que si on est ensemble, c'est à cause de lui et de sa victoire. Et nos activités servent à faire découvrir cette victoire aux autres. J'aime bien que Louise, elle va au Tim Hortons puis elle invite du monde à venir. Et on est tous appelés à ce travail-là aussi. Dieu t'invite à prendre ta place dans le projet Oasis. Avec tes dons, ta personnalité, ta culture unique. Et c'est vrai, souvent, on devient découragé, fatigué dans le travail de l'Église. C'est un travail à long terme. Et jusqu'à parfois, un frère, une sœur, ça peut être moi, je me replie sur moi-même et sur mes intérêts, mes besoins privés. Et jusqu'à peut-être même me retirer du travail de l'Église locale. Et voilà pourquoi Dieu, dans sa patience, dans son amour, cherche toujours à nous faire redécouvrir la grandeur de qui il est. C'est-à-dire que si tu te retires parce que, au fond, tu as perdu confiance en Dieu, bien lui, il veut t'aider à reprendre confiance. Et par sa parole, il va te faire redécouvrir la grandeur de qui il est. Et ça va déboucher sur un élan nouveau. Je suis ici pour vous encourager ce matin, pas du tout pour vous fouetter. Alors voici la promesse, la manière que je résume ça. Je vous demande de méditer sur ceci cette semaine. Lorsque Dieu nous amène à redécouvrir qui il est, en tant qu'Église en tout cas, nous verrons augmenter le nombre de personnes qui servent dans l'Église, mais on va aussi voir augmenter la joie de servir. Et ça, c'est un défi, la joie de servir est un défi aussi pour les vieux de la vieille. Peut-être que je devrais m'inclure là-dedans, parce que je suis dans l'Oasis depuis longtemps. Ça peut être difficile quand tu sers depuis des années, voire des décennies. Mais quand Dieu me fait redécouvrir qui il est, le découragement va faire place à la joie de servir encore et peut-être même d'une nouvelle manière. Donc, lorsque Dieu nous amène à redécouvrir qui il est, nous verrons augmenter le nombre de personnes qui servent et aussi notre joie de servir. Alors, ce matin, je ne vais pas circuler une feuille pour vous inscrire à des nouveaux programmes ou à des nouveaux ministères. Ce n'est pas un truc pour vous recruter, non. Mon but, c'est que vous puissiez méditer sur votre vision de Dieu. Est-ce que vous êtes peut-être un peu découragé en ce moment? Ou est-ce que vous êtes focalisé sur la grandeur de Dieu et de sa fidélité? Parce que si on commence à se réjouir de ces réalités-là, bien, on va être dans l'attente joyeuse du début du réveil parmi nous. On va être dans l'attente que qu'est-ce que Dieu est en train de commencer à accomplir? Des nouvelles personnes qui s'engagent, une nouvelle joie qui rejaillit en moi. Et c'est Dieu qui va le faire en son temps. Ce n'est pas moi, ce n'est pas nous. Soyons dans l'attente et dans la prière. Amen. Puis si tu me dis, mais Marc, c'est bien beau tout ça, mais ce n'est pas réaliste. La vie moderne, c'est donc complexe. Les obstacles sont nombreux, les sollicitations sont tellement nombreuses et fréquentes et grandes, de toutes parts. Bien, tout ce que je peux vous dire, moi aussi, mon cœur me dit la même chose. Je le sais. Et en tout cas, ce qui m'a aidé à voir plus clair, c'est l'histoire de David, dans 1 Samuel 17. Mais j'ai étudié le chapitre 16 aussi, mais toute cette affaire avec Goliath, cette guerre entre Israël et les Philistins. Et dans cette histoire, j'ai été frappé par trois « oui » que David a dit à Dieu et à son peuple. Trois « oui » qui m'ont aidé et qui vont nous aider à voir clair dans la réalité compliquée de nos vies. Et je le sais que vos vies sont compliquées et exigeante. Regardons un peu à David maintenant. Alors, on a lu un petit bout de son histoire tantôt. Je vous invite à lire le chapitre au complet à la maison, le chapitre 17 de 1 Samuel. David dit trois oui. Le premier oui, David dit oui à sa responsabilité de longue date. Je vais me référer à l'histoire que j'espère que plusieurs connaissent déjà. Mais bref, Dieu va donner au jeune David une nouvelle tâche. C'est son père qui va lui demander de faire quelque chose. Mais David, ce qui est beau, il manifeste un cœur loyal et fiable envers son rôle actuel, son rôle du passé, mais qu'il est en train de faire pour aider la communauté. Et dans le verset 20, qu'on n'a pas lu, mais que je vais lire maintenant, alors que David part pour accomplir sa nouvelle mission, le narrateur, il va dire ce détail. Il dit, « David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien. » Petit détail. « Il laissa les brebis à un gardien, prit ses affaires et partit, comme son père le lui avait ordonné. » On va parler de ce que son père lui a demandé un peu plus tard. Mais notons que le service de longue date de David, c'était d'être le berger du troupeau de brebis de son père. David va accepter une nouvelle tâche donnée par son père, mais pas sans d'abord faire la démarche de laisser les brebis à un gardien. Moi, je trouve ça beau parce que je vois que, premièrement, il ne dit pas non à la nouvelle tâche. Il ne dit pas, « Écoute, papa, je m'occupe déjà de tes brebis. Wow, là, hein? On n'ambitionne pas trop, paps. » Deuxièmement, Il ne dit pas non plus à son père, « OK, je vais faire la nouvelle tâche, mais débrouille-toi avec tes brebis. » Non. Il trouve lui-même son remplaçant pour s'occuper des brebis et assurer le succès des deux ministères. Est-ce que vous me suivez? C'est beau, hein? Ça, c'est un cœur réveillé, un cœur qui se donne. Et dans l'Église locale, les choses vont se compliquer pour vous tout le temps. Il y a toujours des nouveaux besoins qui se manifestent. C'est normal. On est un Dieu en action. Alors, prions que Dieu réveille nos cœurs par rapport à sa grandeur, comme on le voit avec David, pour avoir cette foi d'entreprendre toujours des nouveaux actes de service, tout en restant fidèles envers nos engagements du passé. Soyons cette communauté où l'on peut compter les uns sur les autres. Donc ça, c'est le premier « oui » de David qui m'avait interpellé. Et le deuxième « oui », David dit « oui » à des nouvelles tâches dans le présent. David va accepter de faire des voyages réguliers vers la résidence du roi. Il y a une demande du roi Saül pour être son musicien personnel. C'est comme une longue histoire racontée dans le chapitre. Vous pourrez le lire. Il est devenu le harpiste personnel du roi, ainsi que son écuyer. Et il a accepté. Puis en plus, il va accepter une tâche que son père lui demande, d'aller apporter de la nourriture et d'autres choses pour les besoins de ses grands frères, qui sont des soldats sur le front contre les Philistins qui s'en viennent attaquer la nation d'Israël. Dans le cas de ces deux nouvelles responsabilités de David, ce sont des tâches demandées par d'autres personnes de la communauté, des personnes en autorité, des personnes qui comprenaient les besoins. Et David a dit oui. Dans la vie d'une église aussi, les cœurs réveillés sont sensibles aux besoins des autres pour venir à leur aide. Ils sont ouverts aux demandes aussi des leaders, je parle pour ma propre paroisse ici, qui voient les besoins que d'autres ne voient pas encore. Alors, je ne suis pas en train de dire « il faut dire oui systématiquement à tout », mais c'est ce cœur désireux d'aider, d'écouter, ce cœur avec un esprit d'équipe qui doit nous interpeller ici. C'est pour ça qu'on a lu tantôt, Philippiens 2, que chacun de vous, au lieu de regarder seulement à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. David avait un esprit d'équipe. Alors, soyons attentifs à notre propre esprit d'équipe. Ayant un troisième oui de David qui est connu, mais je le dirais comme ceci, David dit oui à l'appel spontané de son propre cœur. Quelque chose qui jaillit de l'intérieur de lui. Dans la vie d'une personne avec un cœur réveillé pour Dieu, il n'y a pas seulement des engagements à long terme, il n'y a pas seulement des engagements à des demandes nouvelles qui viennent des autres, quoique ça fait partie, mais il y a aussi ces appels-là à agir qui viennent de l'intérieur du cœur. Dans cette histoire, on voit David être touché par un besoin urgent qui vient le saisir. Son cœur est interpellé par un trou, une lacune évidente dans le travail de l'armée de Dieu. Il voit un problème qui porte atteinte à la gloire de son Dieu. Quelque chose qui ralentit l'avancement de son plan. Et on voit que cette situation, ça fait souffrir David. Il est comme outré à l'intérieur de lui. Un peu comme Jésus quand il était dans le temple. Il y a quelque chose qui est venu je ne sais pas quelle expression utiliser, mais le poignet dans les tripes, dans son cœur, et le pousser intérieurement. David entend une voix intérieure qui lui dit, « David, tu vois le problème, mais moi aussi, je le vois le problème. Mais c'est toi, David, qui vas être la solution. David, je t'ai équipé et je vais te donner ma force pour répondre toi-même aux besoins. » Alors, en plus, on voit que David est sage. Quand vous lisez l'histoire, vous voyez que, avant de se lancer, David va tester ce cri du cœur. Il va parler à plusieurs soldats, leur demander des détails concernant ce Goliath qui est le problème non résolu. Il y a même son grand frère qui va lui parler et qui va lui donner l'opinion contraire. Il va dire, tes motivations sont mauvaises, elles sont égoïstes. Rentre à Bethléem, t'occuper du troupeau. Donc, il consulte différentes personnes et il va même aller consulter le roi Saül. Et puis, son appel pour aller combattre Goliath lui-même va être confirmé. Et on connaît la suite. C'est une histoire quand même merveilleuse. Ce zèle du Seigneur qui jaillit du cœur, cette souffrance de voir ralentie ou bafouée la gloire de Dieu et qui va pousser quelqu'un à se lever, bien, c'est important aussi dans l'Église locale. C'est le signe d'un cœur éveillé. Je vais vous raconter une expérience personnelle qui m'a marqué à vie, je pense. J'étais actif, quand j'étais jeune adulte, dans une église à Ottawa. Et j'accompagnais au piano la louange du dimanche. À l'époque, il n'y avait aucun autre musicien engagé dans cette église. J'étais en fait un débutant dans ce domaine de la louange chrétienne. J'aimais ça. Et puis, je ne me posais pas trop de questions. Et l'Église, quand même, exprimait de la reconnaissance pour mes efforts. Mais, un jour, une jeune chrétienne qui venait de déménager à Ottawa a commencé à venir à notre Église. Et, je ne le savais pas, mais elle était une très bonne musicienne. Et en plus, elle avait de l'expérience dans les ministères de louange, dans son église, dans son ancienne église et ailleurs. Et après une célébration, donc à la fin, elle vient me voir, elle vient me parler. Et puis elle me demande, « Marc, est-ce que je peux te parler franchement? » Je pense que j'ai dû répondre oui. Écoutez bien ça, elle dit, « Marc, tu joues bien, j'aime ça. » Comment tu joues. Mais franchement, ce que tu fais les dimanches matins, c'est du tourisme. Aïe, aïe! Vraiment, je me suis dit, wow! Alors, entre parenthèses, c'était une Européenne. Je pense qu'ils sont plus habitués que nous de confronter les gens comme ça. Et ça m'a pris du temps à digérer ça, mais ce qu'elle voulait dire, c'est que mon travail de préparation était, selon elle, insuffisant et que je pouvais faire mieux, selon elle, et que, ça rendait que je mettais la barre trop basse et que ça rendait inutilement l'expérience de louange de la congrégation pénible inutilement. Ah là, je me mets dans l'eau chaude avec les équipes de louange, là. Mais en fait, je parle en général de qu'est-ce que c'est qu'un cœur réveillé dans l'église locale et qu'est-ce que ça produit, parce que vous allez voir qu'est-ce qui m'est arrivé. C'était un problème pour elle par rapport à ce que la louange de son Dieu devrait être. Puis elle s'est exprimée. Et moi, oui, j'étais désemparé par sa critique et je ne savais pas quoi faire. Sauf que je me sentais coupable. Mais ce qui était bien dans ce qu'elle a fait, c'est qu'elle ne critiquait pas seulement pour exiger plus de moi ou des autres. Non, cette sœur, elle est restée dans l'église. Elle s'est jointe à l'équipe musicale avec sa guitare. Elle a pris le cours de membre. Elle est devenue membre. Et en peu de temps, on l'a nommée en charge du ministère de louange. Et elle avait vraiment un appel à ça. Comme David, là, c'est comme, toi, c'est toi qui vas régler le problème. Et elle avait cette confiance que Dieu était avec elle. Et elle avait une vision, puis d'autres musiciens se sont joints. Le Seigneur a développé à travers elle un beau ministère de louange. Et je suis moi-même devenu un meilleur adorateur, puis je pense plus sérieux aussi. Amen! Bon, avant de me lapider, non, je blague. Alors, comme David, cette sœur a obéi à un appel intérieur du cœur, un appel pour voir la gloire de Dieu avancer dans son Église. Et cela l'a conduite à l'action. Et toi, qu'est-ce qui te dérange dans ton Église? Moi, je dis rien, et je te dirais, s'il n'y a rien qui te dérange dans ton Église, peut-être qu'il y a un problème. Parce que Dieu veut construire, Dieu veut améliorer. Par contre, s'il y a quelque chose qui te dérange, sois attentif et fais attention. C'est peut-être un nouvel appel de Dieu pour toi. Alors, on va conclure. Ce matin, on a vu trois « oui » du cœur réveillé à Dieu de David. « Oui » à continuer dans sa responsabilité de longue date. Oui, aussi à accepter quelque chose de nouveau. Oui, aussi au cri du cœur. Donc, c'est une leçon pour notre vie ensemble dans l'Oasis. Ça paraît exigeant, mais ça vaut la peine. Travailler pour l'Église locale vaut la peine. Et comme j'ai dit au début, on n'est pas seulement appelé à travailler dans l'Église locale, mais ça fait partie. Et je vais terminer simplement en disant, prions pour qu'on puisse voir ceci en nous-mêmes d'abord, mais dans les autres aussi. Lorsque Dieu m'amène, nous amène à redécouvrir qui il est, puis comment est grande sa fidélité, on verra augmenter le nombre de personnes qui servent, mais on verra aussi augmenter la joie du service. Amen. Amen. Prions ensemble. Oui, Seigneur, ça a toujours été ton souhait de réveiller ton peuple pour te voir tel que tu es. Beau, puissant, assis sur le trône de victoire, la victoire de l'amour, de la rédemption et de la transformation. Et s'il y a quelqu'un qui est ici découragé ce matin, ou peut-être frustré ou fâché à cause de déceptions du passé, le Seigneur te dit, je veux venir à ton aide. Je veux venir transformer ton cœur pour que tu puisses pardonner. Pour que tu puisses aussi voir les choses d'une nouvelle manière, voir les choses de ma manière. est appelé au service. Ô Seigneur, merci, parce que tu es cette sorte de Dieu. Et merci pour les beaux exemples. Et il y en a beaucoup dans l'Oasis. Et il y en a dans la Bible aussi. Merci pour les David qui nous montrent c'est quoi un cœur réveillé. Seigneur, réveille mon cœur. Nous prions en son nom, au nom de Christ. Amen.